15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux opérations de reconstruction mammaire après un cancer du sein. Octobre, c'est le mois de sensibilisation autour de cette maladie et donc, avec notre invité, le professeur Fabien Réal, chef du service de chirurgie sénologique, gynécologique et reconstructrice, de l'Institut Curie, nous ferons le point sur les différentes techniques chirurgicales pour réparer une poitrine et vous verrez qu'aujourd'hui, très souvent, ça se fait sans prothèse mammaire. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va donner quelques précautions aux cueilleurs de champignons. Les cas d'intoxication en ce moment sont en augmentation selon les autorités. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler du bruxisme. Vous savez pas ce que c'est ? Eh bien, ce sont ces gens qui grincent des dents la nuit, ce qui peut avoir des conséquences assez embêtantes. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de massages érotiques. Sont-ils obligatoirement un prélude au rapport sexuel ?
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on écoute la première, c'est celle de Valérie, 34 ans.
Bonjour docteur Jimmy Mohamed, bonjour Mélanie. Je me permettais de vous appeler pour vous poser une petite question. Est-ce qu'une femme homosexuelle est obligée d'aller aussi fréquemment qu'une femme hétérosexuelle chez le gynécologue, dans la mesure où il n'y a pas d'acte sexuel avec pénétration ? Merci beaucoup, au revoir.
Bon, pas de pénétration, pas de besoin de contraception non plus, mais c'est une très bonne question, un sujet dont on parle peu parce que le suivi gynéco des femmes lesbiennes, mais pourtant on est d'accord, hein, Jimmy, elles doivent se faire suivre de ce côté-là autant que les femmes hétérosexuelles, j'imagine.
Oui, tout à fait, et c'est vrai qu'on communique peu dans cette population. Alors quand je dis cette population, c'est pas pour être discriminant, je parle de population en termes épidémiologiques, voilà, de groupes de femmes qui ont des rapports avec d'autres femmes. Et on a beaucoup parlé des hommes homosexuels pour les campagnes de dépistage, notamment pour le VIH, les infections sexuellement transmissibles, mais finalement très peu des femmes qui ont des rapports avec les femmes. Et même chose dans les études, on s'y intéresse très peu, or il faut qu'elles aient un suivi comme les autres.
D'accord. Et ces femmes, par exemple, elles doivent faire, j'imagine, des frottis régulièrement, comme les autres hétérosexuels.
Oui, exactement. Elles doivent le faire comme toutes les autres, c'est-à-dire tous les 3 ans. Et on se rend compte que l'âge du premier frottis chez les femmes homosexuelles est plus tardif que chez les femmes qui ont des rapports avec des hommes. Et en termes de fréquence, c'est pas terrible non plus. L'Institut de veille sanitaire a fait une étude en 2011 et qui montre que si on interroge les femmes homosexuelles, dans les 3 ans qui précèdent, elles ne sont que 50% à avoir fait un frottis, contre 65% dans la population.
Déjà, on n'est pas bonnes les femmes hétérosexuelles, mais les femmes homosexuelles, c'est encore pire.
Encore moins bon.
Pas,
et donc, il faut qu'on dé peut-être un peu plus de messages de dépistage parce qu'il y a des risques, comme pour la population normale au terme de fréquence.
Ah, bien sûr. Et une vraie inégalité de suivi donc, entre les femmes en fonction de leur orientation sexuelle. Et ça peut les mettre en danger, hein, cette négligence, parce qu'elles-mêmes, elles se croient protégées, ou alors parfois, c'est leur gynéco qui ne pense pas, mais elles ont des risques aussi. Hein.
Oui, elles ont les mêmes risques d'avoir un cancer de col de l'utérus. Et ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de rapport sexuel avec les hommes qu'elles n'auront pas le papillomavirus qui est potentiellement responsable d'un cancer. Elles sont 6% à avoir ce virus, même si elles n'ont pas eu de rapport avec des hommes. Et parfois, elles ont eu des rapports avec des hommes avant d'avoir avec les femmes. Bref, elles doivent faire ce dépistage du cancer de col de l'utérus, mais aussi de la mammographie. Donc, bref, il faut suivre un gynéco ou une sage-femme pour être dépisté de façon régulière.
Au moins une fois par an pour toutes les femmes.
Exactement.
Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Patrick, 47 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'ai une question. En fait, actuellement, j'ai pas mal de brûlures d'estomac et je prends du Reni. Je voulais savoir si je dois consulter ou est-ce que ça va passer avec le temps. Merci beaucoup. Au revoir.
Alors, les brûlures d'estomac, Jimmy, c'est assez fréquent, mais ça peut être d'ailleurs même très gênant. Décrivez-nous peut-être d'abord juste que c'est pourquoi on a ça en fait.
Les brûlures d'estomac, c'est ce qu'on appelle lié au reflux gastro-œsophagien. C'est une contenue du liquide gastrique qui est acide, qui est fait pour dissoudre les aliments, qui remonte au niveau de l'œsophage et de la bouche. Sauf que l'œsophage et la bouche n'est pas prêt à supporter l'acidité. Raison pour laquelle, lorsque ces régurgitations arrivent, c'est douloureux. et ça donne cette brûlure qui monte avec ce goût un peu amer, comme quand on ravale son vomi. C'est pas très sympa, mais ça explique bien ce qui se passe.
Et pourquoi on a ça ?
On a ça notamment lorsqu'on mange beaucoup. Je vous donne, par exemple, le plat typique que vous mangez, vous, Mélanie, le cassoulet.
J'ai cru qu'il allait dire la paella.
Non, le cassoulet, suivi d'un repas, suivi d'un bon fromage avec un gros dessert. Vous mangez énormément.
Tous les jours, je mange ça, évidemment.
Et donc, comme vous mangez énormément, votre estomac fabrique beaucoup plus d'acidité pour essayer de se débarrasser de cet aliment. Il suffit pour un peu que vous ayez faire une petite sieste juste après. Et là, vous avez ces remontées
allongée,
acides.
Encore
donc,
pire.
C'est souvent lié à un repas qui est un peu trop copieux ou qu'on a mangé un peu trop rapidement.
Et ça peut arriver aussi pour d'autres raisons, peut-être, que le repas trop copieux.
Oui, un exemple concret, c'est classique, c'est la grossesse. Et il y a un relâchement du sphincter au niveau de l'œsophage qui fait qu'on a. Et c'est aussi valable au début. Et à la fin de la grossesse, c'est différent parce qu'il y a un facteur mécanique. Et donc, l'obésité, le surpoids ou toute pression abdominale peut entraîner le reflux. Certains médicaments peuvent aussi aggraver les symptômes. Et l'excès, notamment d'alcool, c'est un vrai pourvoyeur de reflux gastro-œsophageux.
Et on va quand même répondre à la question de Patrick qu'on vient d'entendre. Ça passe tout seul ou il faut consulter pour ça ?
Globalement, ça passe assez rapidement tout seul. Le premier des traitements, c'est les règles hygiéno-diététiques. Donc, on évite le gros repas du soir très copieux. On évite de faire la sieste juste après. On limite sa consommation d'alcool. On évite de trop serrer le pantalon, hein, parce que c'est source de compression abdominale. Ah oui. On essaie de pratiquer une activité physique régulière. Et parfois, on a besoin de prendre un traitement anti-reflux. On appelle ça les inhibiteurs de la pompe à protons.
Les IPP.
Les IPP, ça marche très bien. Et quand ça ne passe pas, il faut consulter, évidemment.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Patrick, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas. Nous y répondrons avec Jimmy très rapidement.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des risques d'intoxication avec les champignons. Il y en a de plus en plus en ce moment. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le professeur Fabien Réal, chef de service et chirurgien à l'Institut Curie. Avec lui, nous ferons le point sur les différentes chirurgies réparatrices à la disposition des femmes aujourd'hui après un cancer du sein. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé-Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Fabien Réal. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez des champignons. Vous êtes un grand cueilleur. Alors pourquoi cette alerte des autorités ?
Alors en fait, du fait des conditions météorologiques qui sont plus fraîches et plus humides depuis ces deux dernières semaines, eh ben, on a plus de champignons. Et comme il y a plus de champignons, ben, finalement, il y a plus d'intoxication. On va vous donner un chiffre tout simple. De juillet à octobre, on a recensé entre 4 et 90 cas par semaine d'intoxication. Mais sauf que là, ces deux dernières semaines, c'est monté à près de 500 cas.
Ah,
donc ça a
énorme.
Été multiplié énormément. Et donc, il y a des risques. Il ne faudra pas les négliger.
Alors, on est content, il y a plus de champignons. Mais c'est quoi les risques, du coup ?
Alors, il y a des vrais risques. Les risques d'intoxication, ça peut vraiment être grave. Avec, au premier plan, des troubles digestifs sévères. Ça peut entraîner des atteintes hépatiques une hépatite qui peut aller jusqu'à la greffe de foie. Parce que ça peut détruire votre foie. Et puis, on peut même en mourir. Donc, c'est au-delà de la tourista qu'on peut avoir ou du kebab avarié qu'on a mangé. Il y a un réel risque pour la santé si on fait n'importe quoi.
Alors, quel conseil donner aux apprentis cueilleurs ?
Alors déjà, on ramasse que ceux qu'on connaît, des champignons. On évite de se lancer au hasard et se dire...
Quand on n'en connaît aucun...
Eh ben, on laisse tomber. Puis, si on a le moindre doute sur l'identification d'un champignon, alors on ne le donne pas à la belle-mère. On le jette directement à la poubelle parce qu'il y a un risque. On cueille seulement les spécimens qui sont en bon état. On évite évidemment les champignons qui sont près des sites potentiellement pollués. On sépare les espèces, on évite de les mettre dans des sacs plastiques parce que ça accélère le pourrissement.
Dans un panier en osier plutôt. Alors.
Voilà, exactement. Dans une petite caisse ou dans un panier en osier, si ça vous fait plaisir. On les lave bien et on se lave les mains. On les consomme en quantité raisonnable et surtout on les fait cuire. Et on évite, si possible, de les donner aux jeunes enfants.
D'accord. Et quelle dernière recommandation on peut donner ? Qui on consulte s'il y a des symptômes, justement ?
Alors, si jamais vous avez des symptômes, avant d'avoir des symptômes, il faut prendre en photo votre cueillette. Ça permettra aucune intoxication, exactement. Dès que vous cueillez quelque chose, vous le prenez en photo, parce que s'il y a quelque chose, vous pourrez montrer l'espèce, parce qu'une fois qu'on l'ingérait, on ne sait plus trop ce qu'on a pris.
Moi, je ne préfère pas les manger, hein, parce que prenez une photo et mourrez après, c'est un peu...
Ouais, c'est une recommandation qu'on peut donner. Si jamais vous avez des symptômes, que ce soit de la diarrhée, des vomissements, après avoir mangé des champignons, et surtout dans les 12 heures, c'est signe d'une potentielle intoxication grave. Et donc là, on appelle le 15 ou on appelle le centre antipoison. On ne va pas chez le généraliste, on consulte immédiatement. Et puis, si jamais on a des symptômes après avoir mangé des champignons, on note l'heure à laquelle on les a mangés et quel type et combien. Parce que vraiment, c'est une enquête policière qui peut être très compliquée. Et à ce moment-là, On espère que ça passe.
Ça devient compliqué de trouver des champignons. Alors moi, je vais y aller avec quelqu'un qui s'y connaît, hein, surtout.
Ouais, c'est moi, je mangerai pas de champignons, je vous le dis direct. Hein,
merci beaucoup, docteur Jimmy Mouhet, pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Fabien Réal, chef du service de chirurgie sténologique, gynécologique et reconstructrice de l'Institut Curie. Alors avec lui, on fait le point aujourd'hui sur les différentes chirurgies réparatrices après un cancer du sein.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Fabien Réal. Bonjour. Excusez-moi, je crois qu'il y a un petit problème de micro, c'est bon, vous êtes avec nous. Alors professeur Réal, nous sommes au mois d'octobre, hein, c'est le mois de sensibilisation autour du cancer du sein. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans son rendez-vous. Et donc quand on a un cancer du sein, avant de parler de réparation, c'est notre sujet du jour, si on en a besoin parfois, c'est parce que le traitement de ce cancer, donc du sein, ça passe très souvent par la chirurgie.
Dans la très grande majorité des cas, les patientes se présentent avec une forme de cancer qui est locale. Et dans ce contexte-là, la chirurgie est pratiquée quasiment tout le temps. Et donc, une partie de ces patientes vont avoir une mastectomie. C'est-à-dire on va retirer l'ensemble de la glande mammaire. Et ça représente, en fonction des instituts et du type de maladie, entre 25 à 35% des patients.
Ah oui, une ablation totale du sein ou des deux seins. Et donc, qui dit ablation du sein, ou même juste parfois quand il y a une opération où on garde le sein, mais on retire une grosse tumeur, ça peut être un peu délabrant au niveau esthétique. Donc, on en arrive à notre sujet, la reconstruction. Combien de femmes souhaitent vraiment se faire reconstruire après ?
Alors, on a du mal à savoir exactement combien de femmes veulent se reconstruire après. Ce qu'on sait, c'est que peu de femmes se font reconstruire après. On se situe probablement aux alentours de 20%, mais les études sur le sujet ne sont pas très précises.
Et pourquoi elles refusent ? Est-ce que c'est des personnes, forcément, des femmes forcément âgées qui ne veulent plus finalement, ou qui n'ont plus l'envie ou le besoin d'avoir une poitrine refaite ?
Alors, ce n'est pas une question de refus, c'est un choix. Et le choix, il y a plusieurs raisons. Ça peut être l'âge, ça peut être le défaut d'information. Ça peut être la crainte d'avoir de multiples interventions, ça peut être l'aspect financier aussi.
Financier, parce que nous, on suppose que c'est remboursé, que c'est gratuit, du coup, enfin gratuit, que c'est pris en charge par la collectivité.
Alors, c'est pris en charge dès lors que vous êtes pris en charge dans une structure publique, et c'est pris en charge avec des dépassements quand vous êtes dans une structure privée. Donc, si vous n'êtes pas une mutuelle qui peut absorber ça, il peut y avoir un reste à charge important.
On reparlera de ce reste à charge, professeur Réal. On poursuit cette discussion dans un instant. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans quelques minutes, on rentre dans le vif du sujet. Quelles sont les différentes techniques proposées aujourd'hui aux femmes qui souhaitent réparer leur sein après un cancer ? Vous verrez que les prothèses mammaires sont de moins en moins souvent utilisées. Désormais, on peut reconstruire un sein, un volume, notamment en greffant une partie du muscle du dos. C'est passionnant, vous allez voir. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mouhamed et notre invité, le professeur Fabien Réal, chef du service de chirurgie sénologique, gynécologique et reconstructrice de l'Institut Curie. Alors professeur, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Vous disposez de pas mal de techniques différentes pour reconstruire un sein. D'abord, pendant longtemps, vous avez utilisé les prothèses mammaires, notamment pour redonner du volume. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins fréquent, je crois.
Alors, les prothèses mammaires sont utilisées en volumétrie en France et dans le monde dans une majorité de cas, en fait. Mais il y a une très grande modification en cours. C'est que les différents épisodes de l'affaire PIP, puis la découverte récente des lymphomes anaplasiques à grandes cellules, qui sont un type de maladie très clairement induite par certains implants.
Mais très rare, hein, ce risque, encore une fois.
Extrêmement rare. Nous amène à changer notre pratique et à nous orienter avec des pratiques qu'on appelle autologues, c'est-à-dire des pratiques avec les tissus du patient.
Alors justement, on va quand même en parler un tout petit peu de ce risque de cancer avec certaines prothèses. Ces prothèses en question, ce sont lesquelles ? Et le risque, il est lequel en réalité ?
Le risque, il est difficile à estimer de manière très très précise, mais on l'estime entre 1 sur 300 000, 1 sur 500 000, ça oscille en fonction, au fur et à mesure de l'accumulation des informations. C'est un risque rare, mais c'est un risque évidemment insupportable, d'autant plus qu'on est dans un contexte soit d'esthétique, soit de reconstruction dans le cadre du cancer. Donc exposer de nouveau des patients
qui ont déjà
à
eu
un nouveau
cancer,
risque de cancer est difficile à admettre. Mais,
donc on les a retirés du marché purement et simplement.
Alors on a retiré du marché les implants qui ont une surface texturée. Texturée, c'est quoi ? C'est comme du crépi dans une maison.
C'est
avoir
pas
une
lisse.
Surface irrégulière, c'est pas lisse. Et donc celles-là ont été toutes retirés. Il reste quelques types de prothèses micro-texturées avec des surfaces quasiment lisses. Et celles-là sont encore sur le marché. On associe vraiment la notion de texturation au risque de lymphome.
Jimmy ?
Et du coup, je suppose que les femmes demandent de plus en plus, celles qui ont besoin d'une reconstruction à la suite d'un cancer ou d'autres, d'avoir plus de prothèses, en fait, qu'on refasse leur sein, mais d'une autre, d'autre manière, la proportion doit augmenter.
En termes de demande, oui.
Moi, je ne peux pas parler pour l'ensemble de la communauté des médecins qui prennent en charge des patients pour une reconstruction, mais en tout cas l'attitude dans les centres de lutte contre le cancer notamment, c'est effectivement de pousser beaucoup plus vers des reconstructions autologues, donc avec les propres tissus du patient et sans implant mammaire.
Mais les femmes, vous en recevez énormément à l'Institut Curie pour le sein, vous êtes un des grands centres spécialisés dans la lutte contre ce cancer et dans le traitement chirurgical. Vous avez eu des appels quand même à la suite de patientes peut-être plus inquiètes ou des questions au moins en consultation sur ces prothèses et cet éventuel risque.
Alors au moment où les prothèses ont été arrêtées par une décision de police sanitaire, les prothèses texturées ont été arrêtées du fait d'une décision de police sanitaire, on a eu quelques appels, mais pas énormément, parce qu'en fait, les patientes qui sont suivies dans le cadre d'un cancer sont extrêmement suivies. Et donc, dans ce contexte-là, elles sont en contact très régulier tout au long de l'année avec des praticiens, donc la réaction a été relativement calme. Et pour ce qui est des prothèses texturées, on n'a aucune recommandation de retrait. Mais par contre, au fur et à mesure de l'évolution, soit esthétique ou des symptômes de la patiente, eh bien, on fait basculer un certain nombre de ces patientes qui étaient reconstruites avec ce type d'implant, soit vers des implants lisses ou microtexturés, soit vers des reconstructions autologues.
Jimmy ?
Mais du coup, si on a retiré du marché celles qui présentent un sur-risque, même s'il est minime, de lymphome, les patientes qui ont déjà ces prothèses, même si le risque est minime et que vous dites elles sont très bien suivies, très bien encadrées, est-ce que vous en avez certaines qui ont quand même demandé à ce qu'on leur retire ? Parce que le fait qu'il y ait un tout petit risque, une fraction existante dans l'esprit d'une femme qui a déjà eu une maladie, un cancer, bah ça doit être parfois un peu insupportable.
Mais ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait un bilan d'imagerie et puis avec ce bilan d'imagerie qui en général est rassurant, on explique à la patiente qu'on n'a pas de recommandation de retrait, mais qu'on est dans un contexte de centre de lutte contre le cancer pour ce qui me concerne et de prise en charge d'une patiente qui a eu un cancer et que tranquillement, on peut positionner soit un changement d'implant, soit une reprise du programme de reconstruction avec d'autres techniques.
Et quand ce risque de lymphome, il est là, finalement il y a un lymphome, il faut juste rappeler aussi, c'est que c'est un cancer finalement, on le voit apparaître quand même, les signes, ils apparaissent vite et on les voit bien, c'est-à-dire que quand on retire l'implant, on enlève la maladie, c'est ça je crois ?
Alors en fait, les symptômes, c'est éventuellement un gonflement au niveau du sein, une rougeur, ça peut être des nodules qui sont perçus au niveau des examens comme l'échographie ou l'IRM. Ce sont en gros les symptômes de cette maladie-là. Et donc effectivement, une grosse partie de ces maladies-là sont guéries par le fait de faire un acte chirurgical qui consiste à retirer la coque qui se construit autour de l'implant. Pourquoi ? Parce que dès qu'on met un dispositif étranger dans le corps, il peut être toléré, c'est le cas des implants mammaires, c'est le cas d'un pacemaker, c'est le cas d'une chambre implantable, mais elle est tout de suite isolée par une forme de fibrose qui se fait, une coque qui se fait naturelle, qui exclut, qui dit « Ok, je te tolère, mais je t'enrobe dans une chambre un peu hermétique, un peu isolée. » Donc ça, cette partie-là, il suffit de la retirer et ça traite une grande partie de ces lymphomes. Il n'en reste pas moins que ça peut exceptionnellement être aussi une maladie grave.
Alors, avec toutes les, il vous en reste encore des prothèses à la disposition. On a en retiré celles qui avaient ce léger risque. Du coup, vous en posez encore aujourd'hui des prothèses mammaires pour des reconstructions. Parfois, peut-être que vous ne pouvez pas faire autrement d'ailleurs. Non, c'est une opération qui se fait, qui dure combien de temps à peu près quand on doit poser les prothèses comme ça ?
Alors, effectivement, parfois, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que la reconstruction, elle est très dépendante aussi de la morphologie des patients. Et c'est la morphologie du patient, la morphologie du sein, c'est le contexte, histoire médicale personnelle, les antécédents. Tout ça joue dans le choix de la technique qu'on va appliquer. Et on se retrouve parfois à devoir utiliser effectivement des implants mammaires. Les temps opératoires sur une reconstruction immédiate avec un implant situé aux alentours d'une heure et demie, avec... En reconstruction secondaire, c'est à peu près la même chose. C'est reconstruction secondaire, c'est reconstruction après une mastectomie, longtemps après. Ça peut être 3, 4, 6 mois, voire plus après. C'est pareil, c'est à peu près une heure et demie avec un implant mammaire.
Et la reconstruction avec des prothèses mammaires, c'est des techniques qui sont maîtrisées par tous les chirurgiens comme vous, ou finalement, il faut aller quand même dans des centres un peu particuliers parce que tous ne font pas de reconstruction aussi bien les uns que les autres.
En fait, il faut aller dans les groupes où les gens sont formés aux techniques de chirurgie reconstructrice. Et donc, ça peut soit être des collectifs comme on a dans les hôpitaux publics. Vous en avez à l'hôpital Georges Pompidou qui est juste à côté. Vous en avez à l'Institut Curie. Vous en avez à l'Institut Gustave Roussy. Donc là, vous avez des collectifs de gens qui peuvent être de différentes origines sur le plan chirurgical et maîtriser ces techniques. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. Et c'est la fréquence, surtout, du geste qui est important. C'est-à-dire quelqu'un qui fait rarement quelque chose en chirurgie ne peut pas forcément, par essence...
Comme tout, on fait bien ce qu'on fait souvent.
On fait bien ce qu'on fait souvent, c'est un métier d'ébéniste en fait.
Professeur Réal, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Europe 1. Dans quelques minutes, on va parler notamment de deux autres techniques plus pointues de reconstruction mammaire, des techniques qui ne sont maîtrisées que par quelques chirurgiens en France. Il s'agit notamment de microchirurgie avec des greffes de peau et de graisse qu'on prélève sur le ventre de la patiente pour recréer un volume dans le sein qui a été abîmé. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Fabien Réal, chef du service de chirurgie sénologique, gynécologique et reconstructrice de l'Institut Curie. Alors il y a quelques minutes, professeur, on a parlé de reconstruction mammaire avec prothèse et à présent on va aborder d'autres techniques plus complexes sans implant. La première, c'est ce qu'on appelle le lambeau dorsal. Alors de quoi s'agit-il ?
Il s'agit de prendre en fait un muscle, qui est le muscle grand dorsal, qui est un muscle qui s'étale au niveau du dos jusqu'aux vertèbres et qui va jusqu'au haut de l'épaule. Et on prend ce muscle en fait et on lui fait faire une rotation, on l'utilise pour le mettre devant et recréer une forme et une consistance de sein.
Ça dure combien de temps? C'est hyper complexe comme opération.
C'est pas hyper complexe pour des équipes entraînées, mais ça dure 2h30, 3h.
Ah oui, et au niveau du dos, ça ne crée pas de problème après enfin, quand on prend un bout de truc et dans le dos, ça doit bien servir à quelque chose.
Alors c'est vrai qu'on modifie l'anatomie d'une personne, mais de notre expérience, d'abord il y a plusieurs façons de réaliser cette intervention, je ne vais pas détailler là, mais de notre expérience, on voit que pour une majorité de patientes, on a peu ou pas de symptômes et un résultat plastique qui est satisfaisant. Donc c'est une assez bonne technique.
Jimmy ?
Et les femmes qui ont besoin de cette technique ont accès partout en France à des chirurgiens qui la pratiquent ?
Oui, c'est une technique qui est assez diffusée, qui est maîtrisée par beaucoup de chirurgiens et qui permet de donner un assez bon résultat. C'est vrai que la crainte des patients, c'est que dans un pourcentage de cas relativement restreint, mais évidemment quand ça vous arrive, c'est vous qui portez le relativement restreint, on peut être associé à un inconfort au niveau du dos et parfois à des douleurs au niveau du dos. Ça reste pas très fréquent, mais ça existe vraiment et c'est ça souvent qui fait craindre aux patientes des difficultés en post-opératoire. Donc il y a une forme de crainte là-dessus, même si lorsqu'on regarde les études, c'est pas très très fréquent.
Et en termes esthétiques, elles sont finalement aussi satisfaites que celles qui ont des prothèses classiques ?
C'est difficile de comparer parce que si vous pratiquez le mieux possible la chirurgie reconstructrice, vous adaptez votre technique à la morphologie des gens, à la morphologie du sein, et donc vous n'allez pas forcément choisir la même technique pour tout le monde. En fait, ce qui fait qu'une équipe ou un praticien maîtrise bien la reconstruction, c'est l'étendue des techniques maîtrisées. Plus vous avez de techniques, plus vous pouvez vous adapter à la morphologie de la personne et à l'objectif de reconstruction. Donc dire que le dorsal est mieux que la prothèse ne serait pas juste. Je pense que c'est deux techniques différentes dans des indications différentes.
J'arrive pas à imaginer, alors on est en radio, c'est difficile, on n'a pas d'image, mais comment un bout de dos, ça pourrait reconstruire un sein et ça fait un résultat joli, naturel ?
Ça peut faire des résultats très jolis. D'abord, ça peut être en reconstruction immédiate, c'est-à-dire on garde le contenant. C'est-à-dire on garde la peau, éventuellement on peut garder l'aréole et le mamelon, et donc il s'agit juste de remplir le volume. Donc là,
on
remplit avec le muscle du dos, donc ça, il n'y a aucun problème. On a la forme du sein initial et on la remplit avec un volume. Quand c'est en reconstruction secondaire, c'est-à-dire quand c'est à distance de la mastectomie totale, là, c'est un peu différent.
C'est combien de temps après, en général ?
C'est variable. Ça peut, en fonction des indications cancérologiques et du type de traitement qu'a reçu la patiente, ça peut être entre quelques mois et plusieurs années. Et puis, c'est aussi le choix du patient. Les patients ne veulent pas forcément se faire reconstruire tout de suite. Mais en reconstruction secondaire, effectivement, il y a un peu plus de cicatrices. Et les résultats peuvent être aussi des beaux résultats.
Parce que parfois, vous opérez à la fois la tumeur, enfin, vous faites ça tout d'un coup. C'est-à-dire qu'à la fois, vous guérissez le cancer d'un point de vue chirurgical et vous réparez en même temps.
On peut faire dans certaines indications cancérologiques effectivement des reconstructions immédiates, c'est-à-dire vous retirez le sein et sa tumeur et au même temps vous le reconstruisez.
Ah oui, et ça, c'est les femmes, j'imagine qu'elles ont très envie d'avoir ça parce que ça évite de repasser deux fois sur le billard. Enfin...
Alors l'avantage de ces techniques, c'est qu'effectivement on garde l'étui cutané et éventuellement l'aréole et le mamelon et ça donne effectivement des résultats qui sont très supérieurs aux autres techniques puisque finalement il s'agit de remplir ce qui est l'enveloppe du sein avec différents tissus qui peuvent être du dos, une prothèse ou du ventre.
Et ces techniques sont aussi prises en charge de la même façon que pour une prothèse par la sécurité sociale ou il y a une prise en charge différente ?
L'ensemble des techniques sont prises en charge par la sécurité sociale et puis après, ça dépend du lieu où vous faites traiter. En service public, vous allez être pris en charge. En service privé, il y a des dépassements qui sont pris en charge éventuellement par votre mutuelle et il peut y avoir des restes à charge plus ou moins importants.
Si c'est plus complexe, j'imagine que vous gagnez beaucoup plus d'argent, vous ? Les chirurgiens.
Alors en fait, moi je vais parler que de la pratique publique. La réalité, elle est étonnante. C'est-à-dire que la cotation des actes ne reflète pas la complexité des gestes. On parlera un peu plus tard de ce qu'on appelle le Dieppe ou des techniques de microchirurgie qui peuvent durer 6 heures, nécessiter 2 équipes. La différence, c'est que la cotation va se situer aux alentours de 5 000 euros. Une mastectomie va être cotée aux alentours des 3 000 euros. Donc on est sur des écarts qui sont pas très importants pour une complexité et une durée opératoire très nettement supérieur.
Et pourquoi on fait ça ? Parce que si on sait, c'est un acte plus compliqué, donc qui prend plus de temps, plus d'équipes, on monopolise les locaux, on fait moins de gestes à côté. Pourquoi est-ce qu'on paye si peu un acte qui, dont le bénéfice finalement est très intéressant?
Alors,
Pour limiter justement et de vous dire à la fin de l'année, faut en faire un peu moins parce que vous voyez, c'est pas rentable.
Alors je ne vais pas aborder la thématique de la cotation des actes en chirurgie et en médecine, parce que c'est une thématique extrêmement complexe et surtout c'est une thématique qui va petit à petit évoluer quand même un peu plus vite qu'elle n'évolue jusqu'à présent, puisque finalement il y a des grandes réunions où on rediscute de la cotation des différents actes. En ce moment, on est en train de réfléchir à la cotation de ces actes. Et la cotation de ces actes ne pose pas uniquement la question de la reconstruction mammaire, elle pose la question de l'ensemble des techniques chirurgicales. Donc c'est un équilibre avec un volume financier qui est en général plutôt contraint.
Alors, vous l'avez dit, il y a une autre technique, vous l'avez un tout petit peu amorcé, vous appelez ça le DIEP, je crois. Moi, j'ai l'impression que c'est encore plus complexe. Hein. C'est de la microchirurgie, là aussi, ça consiste en quoi, le DIEP?
En fait, on a, il suffit de regarder quand hommes et femmes dépassent 40-50 ans et commencent à avoir un petit peu de graisse qui s'accumule entre l'ombilic et le pubis. Et ce volume de gras, quand il est nourri par une artère et une veine de bon calibre, peut être intégralement pris et puis transposé au niveau de la paroi thoracique pour faire des reconstructions qui donnent vraiment de très très beaux résultats. Pourquoi ? Parce que c'est des structures qui vont être souples, qui vont être chaudes, qui vont avoir un aspect extrêmement naturel, et c'est vraiment une des techniques les plus abouties en reconstruction.
En plus, vous faites deux en un, entre guillemets, vous enlevez le gras, ça c'est plutôt sympa, et on refait un joli sein, quoi, c'est ça ?
On fait une plastie abdominale en même temps qu'on refait un sein. Effectivement, il y a des deux côtés, on a une forme de bénéfice. Après, c'est des techniques qui sont maîtrisables par plein d'équipes. Le problème de ça, c'est qu'il faut se structurer pour ça. Ça demande beaucoup de ressources chirurgicales, ça demande des infirmières de bloc opératoire, ça demande du temps dans des salles opératoires, ça demande la possibilité de reprendre les patients. C'est des techniques qui sont assez lourdes, en fait.
Oui, parce qu'en plus, j'ai cru comprendre qu'il fallait deux équipes de chirurgiens, notamment, pour prélever et mettre ensuite ce greffon.
Alors en fait, on s'organise très souvent dans les différents blocs opératoires en deux équipes. Pourquoi ? Parce que vous préparez d'un côté les vaisseaux thoraciques et la zone receveuse de ce que vous allez prélever au niveau du ventre. Et en travaillant à deux équipes, vous réduisez le temps opératoire qui est posé sur le patient.
Ah oui, sinon, ça mettrait 10 heures, en fait, c'est ça ?
Sinon, on se retrouvait sur des durées de 7-8 heures, alors que là, la plupart des équipes qui en font beaucoup sont aux alentours de 5 heures.
D'accord. Et là, pareil, combien d'équipes en France maîtrisent ce geste ? Partout, je peux avoir ce Dieppe si j'ai besoin d'une reconstruction que je veux naturelle et qui est, je ne sais pas.
Alors, pas partout, parce que ça demande effectivement beaucoup de ressources en termes de temps, en termes de technicité, en termes de coûts. Donc, la faible rentabilité de cet investissement-là fait qu'il n'y a pas beaucoup de structures publiques et privées qui sont capables d'offrir ça et de le lancer massivement. Mais on a quand même à peu près partout en France des équipes.
Au moins un centre, par région, on fait ça.
On peut à peu près trouver partout des équipes bien entraînées qui proposent ce type de technique et qui ont des bons résultats avec.
Jimmy. Et avec meilleurs résultats, avec moins d'effets secondaires de risque, parce qu'en microchirurgie, j'ai l'impression que le risque d'infection ou de complication est supérieur à celui d'une intervention, on va dire, classique avec des prothèses. Et pour un résultat qui reste meilleur, les femmes sont plus satisfaites avec ça qu'avec le lambeau, qu'avec la prothèse ?
Alors en fait, les complications vraiment importantes avec ce type de chirurgie particulièrement complexe, quand on parle de complications, je dirais graves, elles sont très peu fréquentes. Ça reste de la chirurgie qui se situe en surface, en dépit de sa complexité. On est sur des tout petits vaisseaux, on est sur la surface du corps.
Même si on prend un bout du ventre,
On reste en surface, en fait. On n'est pas dans le ventre, on n'est pas dans le thorax, on n'est pas dans l'os, on n'est pas sur une mâchoire. Donc on est sur des structures qui sont où le corps humain supporte beaucoup mieux. Donc en fait, les complications graves de cette chirurgie, elles sont rares. Par contre, on sait que ça peut totalement échouer dans 3-4% des cas en fonction des différentes séries publiées. Pourquoi ? Parce qu'on est sur, on va brancher une artère, une veine et une veine qui font chacune un millimètre et demi.
Ouais.
Donc là, même si vous avez une technicité très forte et que ça devient banal de faire ces branchements, le flux sanguin dedans peut être perturbé. On peut avoir du mal à déboucher éventuellement ce flux s'il venait à se stopper.
Et donc le résultat, là, esthétique, on va dire, pour les femmes en général, elles en sont satisfaites ? Ça donne un sein comment ?
Ça donne un sein qui a vraiment une allure de sein au sens où il est souple, il est chaud. Il peut avoir une forme qui est très similaire à l'autre.
On dirait que c'est la technique que vous préférez en termes de résultats, non ?
C'est une des techniques qu'on préfère parce que c'est vraiment un tissu qui est en termes de modelage, en termes d'aspect, donne vraiment des très bons résultats.
Jimmy ?
Et qui décide de la technique utilisée entre le lambeau, les techniques de microchirurgie, les prothèses classiques ? C'est la patiente, c'est vous ? C'est en fonction peut-être des lésions précédentes ?
En fait, c'est un cumul d'une réflexion sur plusieurs éléments très importants. D'abord, la morphologie du patient, la morphologie de son sein, sa consommation de tabac et d'autres éléments qui peuvent gêner les cicatrisations, créer des complications comme le diabète, les corticoïdes. Est-ce qu'il y a des antécédents lourds ou pas ? C'est-à-dire qu'on ne va pas censer dans les chirurgies compliquées, évidemment, si la personne est fragile. Il y a toute la question de quel était son chemin en termes de cancérologie, c'est-à-dire quels traitements ont été associés. Est-ce qu'il y a eu de la radiothérapie ? Est-ce qu'il y a eu de la chimiothérapie ? Est-ce qu'il y a eu uniquement de la chirurgie ? Est-ce qu'on est en reconstruction immédiate ? C'est-à-dire au même moment où on fait la mastectomie ou en reconstruction secondaire. Et le cumul de cette information-là va permettre d'arriver à une décision partagée avec le patient.
Et vous décidez à plusieurs d'ailleurs, hein. Ce n'est pas vous tout seul, Fabien Réal, qui décidez pour une femme.
On décide à plusieurs au sens où on travaille
staff,
à plusieurs,
quoi.
Et qu'on partage nos avis. Mais le plus important, c'est que les patientes peuvent avoir accès maintenant un peu partout en France à des conférences d'information qui leur permettent de réfléchir à quelle est la meilleure méthode pour elles.
C'est quoi les gros enjeux aujourd'hui de votre spécialité dans la reconstruction mammaire ? C'est quoi l'avenir pour vous ?
L'avenir majeur pour la reconstruction mammaire, c'est d'essayer de faire réduire les indications de mastectomie totale.
D'ablation.
Donc, réduire le risque d'ablation. Et donc, c'est de travailler sur des nouveaux médicaments, des nouveaux protocoles qui peuvent arriver un jour à ce que la chirurgie ne soit pas l'objectif de la prise en charge d'un cancer du sein. Aujourd'hui, c'est l'un des traitements les plus efficaces. On voit apparaître maintenant des molécules extrêmement efficaces. Et il va falloir réfléchir à comment associer tout ça en ayant le moins de séquelles pour le patient.
Et donc moins de reconstruction peut-être plus tard.
Et donc du
tard.
Coup, de ce fait, moins de reconstruction plus tard.
Merci beaucoup Fabien Réal d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on n'en sait plus sur ces opérations qui permettent aux femmes après un cancer du sein de retrouver un sein, une poitrine plus harmonieuse. Ça fait partie du processus de guérison de la reconstruction après le cancer aussi. Merci.
Merci.
Europe.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler du bruxisme. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Ce sont ces gens qui grincent des dents, surtout la nuit. Ce qui peut avoir des conséquences assez embêtantes pour la dentition, mais pas seulement. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle du bruxisme. Le bruxisme, c'est quoi ? Pourquoi certains grincent des dents, surtout la nuit ? Et quels sont les risques ? Justement, Benjamin Lévesque, notre reporter, a été vous interroger sur ces questions. On écoute son micro-trottoir.
C'est quelque chose avec les dents ?
Je sais pas, moi ça me fait penser au coude par exemple, peut-être des gens qui ont mal au coude, je sais pas.
L'infection des dents ou l'usure, je sais pas.
C'est le fait de grincer des dents dans son sommeil généralement.
C'est un peu un handicap pour le quotidien quoi, je sais pas.
La nuit on dirait que je mâche mes dents et que ça fait plein de bruit et tout, mais moi je m'en rends pas compte du tout.
Je sais pas si c'est une maladie ou juste un défaut.
Ça les détériore de façon accélérée quoi.
Bah je pense qu'il faut le soigner parce que ça doit abîmer les dents à long terme.
Je pense que c'est pas quelque chose qui se développe avec l'âge, c'est quelque chose qu'on a un peu depuis toujours.
Je pense que comme ça concerne quand même la mâchoire et tout, peut y avoir peut-être des risques de mal de tête, de posture peut-être, en relation avec le dos ou quoi.
Bah comment je vais voir une kiné pour relaxer la mâchoire, je pense que ça passe par décontracter les muscles de la mâchoire, parce que c'est ça qui fait qu'on grince des dents. Et ensuite peut-être grâce à l'hypnose ou des choses comme ça peut-être...
La femme elle porte une gouttière pour éviter le fait d'user les dents quoi, dans la nuit, à cause du stress quoi.
À cause du stress, alors on va en parler. Bon, Jimmy, d'abord, le bruxisme, c'est quoi ? Et ça concerne en fait beaucoup de monde ou pas ?
Alors, le bruxisme, c'est un trouble fonctionnel incontrôlé qui provoque le grincement et ou le serrement des dents. Ça se manifeste plutôt la nuit dans 80% des cas, même si pour certains, ça va aussi apparaître la journée. Ça touche autant les enfants que les adultes, mais aussi les adolescents.
Moi, je sais, j'ai mon fils, il grince des dents toutes les nuits, toutes les dents sont abîmées.
C'est 10 à 15% de la population,
c'est fou.
Donc c'est assez fréquent. Alors, il y a deux types de bruxisme. Alors, chez certains patients, les deux s'accumulent. Le premier, c'est le fait d'avoir les dents du haut qui frottent contre les dents du bas. Donc imaginez comme les doigts, les ongles sur une craie, une ardoise, donc un truc assez horrible. Et puis, on a ceux qui auront la mâchoire serrée en continu.
Qui lâche pas comme ça.
Exactement.
C'est serré,
avec les muscles au niveau de la mâchoire qui vont être complètement bloqués, ceux qu'on utilise lors de la mastication. En total, on estime qu'un bruxomane, on les appelle comme ça, comme les mélomanes.
C'est un fameux genre de musique, bruxomane.
C'est un peu moins sympa, mais il peut frotter ses dents pendant 6 à 8 minutes par nuit.
Ah ouais, c'est énorme.
Imaginez lorsqu'on répète ça tous les jours, toute l'année.
Pendant... Essayez de grincer des dents pendant 6 minutes, vous allez voir, c'est
très
très long.
C'est insupportable.
C'est ça, alors on a compris ce que c'est maintenant. Quelles sont les causes ? Il y en a certains dans le micro-trottoir qui parlaient de stress, est-ce que ça joue beaucoup ?
Oui, le stress est un facteur majeur, il est retrouvé chez quasi la totalité des patients qui souffrent de bruxisme. Mmh. En revanche, on sait que certains aliments, ou en tout cas certaines substances, notamment la consommation excessive d'alcool ou de tabac, pourraient entraîner un bruxisme. Mais tout n'est pas très clair. L'Association américaine de psychiatrie dit que ce serait carrément un trouble du comportement.
Ah oui.
Donc on ne sait pas trop exactement.
Les origines,
là,
c'est fou,
exactement.
Encore.
C'est plutôt multifactoriel. Certains évoquent un désordre endocrinien, donc un problème hormonal.
Ah oui.
Donc voilà, c'est compliqué. On parle parfois d'infection parasitaire. Bien souvent, on retrouve qu'une source de stress et d'anxiété.
D'accord, on voit qu'effectivement, l'origine de ce trouble est encore assez floue. Mais quelles sont les conséquences du coup de ce bruxisme ? Moi, je vous dis, j'ai vu mon fils avec les dents très élimées, très abîmées. Mais il y a quoi comme conséquence
vraiment ? Ça. Le premier, c'est l'usure de l'émail,
des dents.
Exactement.
Ouais.
Avec les troubles orthodontiques qu'on peut avoir derrière. Et puis, le fait d'avoir tout le temps sa mâchoire serrée, ça va être douloureux. Et on a des patients qui vont avoir comme une otite, mais ils n'ont pas d'otite. En fait, ils ont mal aux oreilles, mais car ils ont trop serré la mâchoire. Bref,
réveil,
c'est douloureux
surtout,
au réveil, exactement. Et puis, ils vont voir des ORL, et puis finalement, on ne retrouve rien, si ce n'est ce bruxisme.
Et ça se traite comment, rapidement ?
C'est compliqué. On peut utiliser des orthèses, c'est-à-dire des gouttières, pour empêcher le frottement. C'est difficile à supporter, mais c'est plutôt efficace. Et puis, chez certains patients, notamment ceux qui ont la mâchoire très serrée, on peut avoir recours à des injections de toxines botuliques qui permettent de relâcher ces muscles et d'avoir un peu moins de bruxisme. Bref, si jamais vous avez des symptômes, ne vous dites pas que c'est rien. Et si vous entendez vos enfants, votre mari, votre conjoint avoir ça, traînez-le chez l'ORL ou stomato, c'est important.
On consulte et puis éventuellement la relaxation, la sophrologie pour ceux qui sont trop stressés. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Alors dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de massages érotiques. Sont-ils obligatoirement un prélude au rapport sexuel ?
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et elle arrive à l'instant dans le studio, c'est Catherine Blanc, notre sexologue et psychanalyste. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, bonjour
avec
Catherine.
Son grand sourire et le travail.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question de Marie-Laure, 33 ans. Je vous la lis. Alors pour érotiser notre relation, j'ai fait à mon mari la demande de massage, mais inévitablement, ses mains glissent sans attendre vers mon sexe et mes seins, ce qui au lieu de m'exciter me met en colère. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, pourquoi ça l'énerve autant Marie-Laure ? D'abord, ces massages-là, elle lui a demandé pour érotiser. Donc bon, au final, ça va droit au but, si je peux dire.
Eh bien justement, c'est parce que, alors je crois qu'il y a en fait un malentendu. Je crois que c'est dans un premier temps, c'est pas pour érotiser, c'est pour être dans l'envie d'aller vers la sexualité. C'est-à-dire
une sorte de préliminaire encore,
voilà,
c'est ça ?
Pour retarder un peu l'échéance et se laisser le temps d'avoir envie de réveiller son corps et de réveiller son sexe. Sauf qu'évidemment, si son mari, lui, va directement là où il faut éveiller, elle, évidemment, elle attendait plutôt de l'expression de tendresse, elle attendait aussi une reconnaissance de sa globalité, de toute la géographie de son corps. Donc il y a une petite ambivalence, parce que je ne suis pas toujours sûre qu'il s'agisse pour elle de sexualité. Au final.
Si elle a des vrais massages, pourquoi elle ne va pas avoir une masseuse, en fait, juste ?
Non, je pense qu'elle dit ça aussi pour être touchée. Et c'est vrai que nombre de couples ne se touchent pas, sauf dans la sexualité, et donc que dans les zones sexuelles. Ce qui, pour les hommes, ne pose pas outre mesure de difficultés, puisque c'est un petit peu ce à quoi ils ont tendance à se réduire, qui, pour une femme, pose des difficultés, puisque comme elle est très maternante, très câline, ou pas, mais enfin, en général, les femmes qui veulent être caressées sont des femmes elles-mêmes câlines, c'est une envie d'une contrepartie, une envie aussi de recevoir ça. Mais sauf que c'est pas très sexuel, c'est souvent très maternel, et c'est pour ça que les hommes n'y vont pas.
Mais pourquoi elle n'est pas contente ? Moi, je comprends pas pourquoi elle dit ça m'énerve beaucoup, c'est ce qu'elle dit dans son message. Je suis en colère, alors qu'elle devrait être contente de susciter autant de désir chez son mari, non ?
Non, oui, bien sûr, mais simplement, si elle demande un massage, donc si elle demande, voit que j'ai un coude, voit que j'ai des mains, voit que j'ai des pieds, voit que j'ai une tête, c'est parce qu'elle se sent trop réduite, justement. Donc, en effet, elle ne veut pas être touchée en ces zones-là, et son mari, certainement, ne sait pas quoi faire des autres zones qui, pour lui, ne racontent d'une part rien de la sexualité, ni rien de son excitation, et donc, du coup, ça révèle chez elle qu'elle n'est que un sexe et des seins, alors qu'elle voudrait être tout un corps. Mais encore une fois, je pense qu'elle n'était même pas prête, le soir même de ce massage, à faire l'amour de toute façon.
Jimmy ?
Et puis son mari peut-être se contrôler et ne pas se, comment dire,
comporter comme un ado prépubère qui découvre le corps d'une femme alors qu'elle lui demande, entre guillemets, un simple massage.
Et c'est pas ça. Clairement aussi. Hein.
C'est ça, mais bien sûr que découvrir, et pour un homme, découvrir l'émotion et la douceur et l'abandon aussi de ce corps qui s'offre aux mains, et puis découvrir la texture d'une peau, prendre le temps. Lundi, nous parlions des kiffs et prendre le temps d'être dans la situation qu'on est en train de vivre. Et bien là, c'est la même chose, prendre le temps de sentir cette peau, la pression de cette peau, c'est aussi très agréable, quand bien même ce n'est pas érotique et sexuel pour l'homme. Se réduire à ça, c'est tellement dommage en effet. Mais le problème, c'est que nombre d'hommes savent aussi très bien que quand ils caressent, massent, eh bien leur épouse ou leur compagne s'endorment, et donc la sexualité n'est pas du rendez-vous. C'est vrai. Et alors pourquoi pas ?
Elle fait quoi, Marie-Laure ? Alors, elle continue à demander des massages et elle est plus précise. Elle lui dit « je veux de vrais massages ». Enfin, il faut qu'elle poursuive dans cette voie-là puisqu'elle s'en doit en avoir besoin, apparemment.
Je crois qu'il faut qu'elle dise que ce n'est pas pour érotiser. Je crois qu'elle a besoin, dans un premier temps, d'avoir le droit d'exister nue et sous ses mains sans être érotisée par lui. Son erreur est de vouloir demander quelque chose au nom de l'érotisation de la relation, au nom de « pour que je sois plus excitée », alors qu'en réalité, elle a besoin d'autre chose pour assurer la qualité et la confiance dans leur relation qui l'amènera plus tard, une autre fois, un autre jour, à de la sexualité.
Jimmy ?
Et puis, elle peut peut-être lui demander de la masser on va dire, une autre partie du corps un peu moins érogène, les pieds ou le crâne, peut-être qu'elle aura moins envie de, qu'entre guillemets, ça dégénère que le dos.
Donc, c'est pas désagréable non plus. Hein.
Bien sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont leurs pieds dans les mains des maris devant la télé ou qui ont la tête.
Il déteste les pieds, mon mari. Jamais il me massera les pieds, c'est impossible. Pourtant, ils sont mignons. Hein, mais...
bon, il va falloir trouver, donc aller chez le réflexologue. mais heureusement que.
Les pieds, en tout cas, c'est pas très érotique, a priori, effectivement.
Ah, ça dépend. Il y a des hommes qui adorent et qui sont fétichiste des pieds, mais quoi qu'il en soit, c'est pas tellement là pour désérotiser l'homme. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui demandent des zones très précises, mais que ça barbe les messieurs parce que justement, ils n'y trouvent pas nécessairement leur compte. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on y trouve son compte si on voit et le plaisir que ça donne, puisque comme les hommes, quand ils font l'amour aux femmes, veulent absolument les faire jouir, qu'ils prennent le temps de mesurer le plaisir qu'ils offrent dans ces caresses. Parce que si une femme ne ronronne pas, parce que nous n'avons pas cette fonction, c'est bien dommage, nous adorerions, mais ce n'est pas parce que les femmes ne ronronnent pas qu'elles n'y prennent pas un grand, grand plaisir, et souvent elles sont silencieuses, mais observez combien ça leur fait du bien, c'est déjà ce qui annonce une future relation de qualité.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, on s'en rendez-vous. Ce sera une émission notamment sur la maladie de Crohn. Nous recevrons une patiente atteinte qui nous parlera du rôle crucial de l'alimentation dans cette maladie. Pour elle, manger bien plus sainement, ça a été quasiment la clé de sa guérison. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, on se retrouve tout de suite dans l'équipe sauvage, 16h-18h. On va apprendre, on va rigoler comme d'habitude et peut-être encore plus que d'habitude avec un invité passionnant, Johann Sfar, le roi de la BD française, qui sort un nouveau volume du Chat du Rabbin, La Reine de Shabbat. Il a toujours un avis sur tout et toujours un avis éclairé. Ça va être passionnant. À tout de suite.
À tout de suite. Merci beaucoup Mathieu. Belle émission. Restez sur Europe 1.